C'est étonnant, non?
Toutes et à tous. Nous allons parler aujourd'hui d'une des œuvres les plus célèbres du répertoire, le Requiem de Mozart, et aborder le thème de la mort. Alors, ça peut vous paraître un petit peu sombre peut-être, mais en fait, si on regarde le nombre d'œuvres que la mort a inspirées, la mort et tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire le paradis, l'enfer, etc., je peux vous dire que ça remplirait une sacrée discothèque.
Le poète, quand il est mort, le poème, tous ses amis pleurent.
Elle swing cette mort du poète quelque part. Il y a quelque chose de mélancolique mais d'assez joyeux finalement. On va s'apercevoir en fait que les choses de la mort sont extrêmement codifiées dans toutes les musiques qui soient, et le Requiem évidemment ne va pas échapper à la règle. Mais le fait qu'il appartienne effectivement au genre de la musique religieuse va changer complètement les choses, parce que entre une chanson d'un chanteur, je n'ose pas dire de variété, parce que Beko était quand même bien plus qu'un chanteur de variété, mais disons d'un auteur-compositeur-interprète et l'œuvre d'un compositeur classique, il va y avoir une codification qui va être un petit peu différente, parce que l'inspiration va être quand même muselée par un cadre. Et dans un Requiem, il y a un cadre. Alors déjà, Requiem, ça indique une chose, puisque dans les religions chrétiennes, on considère que la mort est le moment du repos, un repos éternel. Ça, on n'en est absolument pas sûr, puisque personne ne sait ce qui se passe après. Oh, ça, c'est une vue de l'esprit, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Donc Requiem in pace, et la formule complète, veut dire tout simplement « repose en paix ». Alors le Requiem en fait désigne la première pièce de tout l'ensemble, parce qu'en fait vous avez une succession de morceaux qui ont un caractère et un sens bien particulier et un ordre bien particulier. Ensuite après vous avez le Kyrie, le Dies Irae, le Tuba Mirum. Ces choses expriment évidemment des choses religieuses. Alors le Requiem est différent de la messe, c'est une messe un petit peu particulière, il est différent du Stabat Mater, il est différent du Magnificat. Tout ça ce sont des termes d'église avec lesquels je ne veux pas vous saouler. Donc ce qu'on vient d'entendre là, c'est un Requiem en fait en un seul morceau, qui est de la fin du XVIIe siècle d'un compositeur tchèque qui s'appelle Zelenka, et lui il appelait ça lamentation. Des lamentations, c'est-à-dire c'est une chose qui a été faite pour une cérémonie funèbre, mais sans respecter l'ordre de tous les morceaux prévus dans un Requiem.
Se vuoi gran ragione.
Nous venons d'entendre le Tuba Mirum du Requiem de Donizetti. Alors, Tuba Mirum, la traduction littérale en latin, ça veut dire la trompette étrange. Ce qui, évidemment, le Requiem fait appel à tout un tas d'allusions bibliques, dont les trompettes du jugement dernier. Ce Requiem, une fois de plus, comme beaucoup d'œuvres, a eu un parcours un petit peu étrange, puisque Donizetti l'a écrit en 1835 pour le décès d'un ami très très cher à lui. Et en fait, le Requiem n'a pas été représenté. Donc Donizetti est décédé lui-même 13 ans après, et le Requiem est tombé dans l'oubli, et n'a toujours pas été représenté avant qu'un musicologue italien ne le découvre après les années 2000. C'est-à-dire qu'il a mis 150 ans avant de parvenir à nous, sauf un des extraits, le Judex Ergo, qui était connu et que Donizetti avait utilisé pour faire tout à fait autre chose. Les œuvres ont parfois des destinées un petit peu curieuses.
One, two, three, check. It's okay. That's it, man. Wait. That's it, man.
Dans l'argot des truands des années 20, Requiem signifiait mort. Quand on menaçait quelqu'un pour une chose qu'il avait faite dans le milieu, on lui disait « prépare ta messe de requiem ». Ça voulait dire qu'un contrat était mis sur la tête de l'individu. Dans le film « Le Pacha » avec Jean Gabin, célèbre pour la fameuse réplique, écrite par Audiard bien sûr, que Gabin adresse à Robert Dalban, « la seule chose que tu peux te dire, c'est quand on mettra les cons sur orbite, t'auras pas fini de tourner ». La réplique est devenue aussi célèbre que le film. La musique du film a été écrite par Gainsbourg, le film date de 1968, l'année d'avant « Je t'aime moi non plus ». La chanson « Requiem pour un con » est restée très célèbre. Nous en avons écouté l'introduction tout à l'heure, je vous passe un petit morceau de la suite.
Écoute les orgues, elles jouent pour toi. Il est terrible, cette terre-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi. À ta mémoire de Célia. C'est un joli thème, tu ne trouves pas? Semblable à toi-même, pauvre con. Voici les orgues qui remettent ça. Faut que t'apprennes par cœur cette terre-là. Que tu n'aies pas même une hésitation sur le requiem pour un con.
Dans le film, un des musiciens de studio qui joue avec Gainsbourg est impliqué dans le meurtre. Et à un moment, Gainsbourg va sortir du studio et croiser Gabin. Ils vont se jeter un regard absolument inoubliable. Le bélier Gainsbourg et le taureau Gabin, visiblement, avaient du mal à se supporter l'un et l'autre. Ceci étant, et pour en revenir à notre histoire, l'idée du Requiem, effectivement, n'est pas forcément la plus vendeuse de l'histoire de la musique. Bon, la mort, la religion, tout ça, ce sont des choses qu'on n'aime pas forcément fréquenter de près et qui ont peu de choses à voir finalement avec la musique qui est avant tout un art de distraction. Les histoires de Requiem, quelles qu'elles soient, ont toujours eu quelques soucis sur leur parcours. Alors, c'est le cas avec celui de Fauré, par exemple. Alors Fauré, en fait, a écrit son Requiem pour une toute petite chorale, un orgue, une formation toute petite. Les quelques paroissiens qui étaient là, dont quelques musiciens, ont été absolument enchantés par cette œuvre qui effectivement est très très belle. Il va y avoir effectivement une deuxième version avec un orchestre plus étoffé et avec un petit peu plus de musiciens. Mais il va falloir attendre, là une fois de plus, quelques années. Comme quoi les compositeurs de Requiem doivent être des gens qui savent se montrer patients.
Thank you.
presque 40 ans après, on va commander à Verdi une messe de Requiem pour le premier anniversaire de la mort d'un grand poète qui s'appelait Alessandro Manzoni. Alors avant, on avait commandé quelque chose à plusieurs compositeurs italiens pour l'anniversaire de la mort de Rossini, et en fait, ça ne s'était jamais fait. Manzoni étant un grand ami de Verdi, Verdi se met à la tâche, et la création aura lieu en 1874 à Milan, à l'église San Marco. Contrairement à beaucoup de messes de Requiem de part et d'autre, le Requiem est accueilli avec un grand succès. Ça va être une des compositions qui va suivre Aïda, dont j'ai déjà parlé dans une émission. Effectivement, ce Requiem est très lyrique et beaucoup de gens lui reprochent de ressembler trop à un opéra. Les vrais amateurs de musique, je pense, apprécient l'un comme l'autre. On écoute une partie. Vous savez qu'à propos de ce morceau du Requiem de Verdi, qui est le Dies Irae, John Barry, qui est le compositeur de James Bond, a avoué s'en être inspiré pour faire le thème de la série. Je ne vais pas vous entretenir du Requiem et de sa forme jusqu'à la fin des temps, on n'est pas là pour ça, mais je vais vous parler de Mozart. Nous sommes en 1791 et le moins qu'on puisse dire, c'est que dans la famille Mozart, ça ne va pas fort. Mozart a épousé Constance en 1782, 9 ans avant, ils ont eu 5 enfants, ils en ont enterré 4. Il y a eu une succession de malheurs. L'opéra Don Giovanni qui a été représenté à Prague a eu un succès en Tchécoslovaquie. Aucun à Vienne. Les Viennois n'ont pas aimé Don Giovanni, qu'ils ont trouvé triste. Toutes ces choses ont désespéré Mozart. Après cette série d'événements, il s'est plus ou moins mis à boire. Il s'est mis à grossir également. Il a pris des kilos. C'est un tout petit bonhomme, hein. Il mesure 1m63, donc ce sont des choses qui vont se voir et qui, évidemment, vont avoir une incidence sur la suite de sa vie. Mais Mozart est résilient. Quand il y a un problème dans son couple ou dans sa vie ou au niveau financier, il a toujours fait quelque chose. Il a déménagé plusieurs fois pour avoir des loyers moins élevés. C'est quelqu'un qui, finalement, a beaucoup plus la tête sur les épaules qu'on ne veut bien le dire. Et donc, là, il apprend qu'il va y avoir, dans une cathédrale de Vienne, un poste de maître de chapelle qui est très intéressant et surtout financièrement, car ce poste est assorti d'une rente de 2000 florins, ce qui pour l'époque est pas une petite fortune, mais quelque chose de très confortable. Donc Mozart ne va pas postuler directement pour la place, mais il va avoir l'idée fort ingénieuse, par le biais de ses amis, de faire représenter en juin 1791 une pièce religieuse, l'Ave Verum Corpus. Pièce très célèbre, donc je vous passe un tout petit extrait. On se dit, tiens, ça fait longtemps que Mozart n'avait pas écrit de musique religieuse. Donc ça inspire une espèce de malfrat qui s'appelle von Walsegg, qui est un comte très très riche. Ce monsieur a une manie étrange. De temps en temps, il commande des œuvres à des compositeurs, il les fait représenter chez lui, et il dit qu'il les a composées. Ce n'est pas un plagiaire, ce n'est pas un imitateur, c'est un détourneur pur et simple de la création des œuvres. Un monsieur pas très recommandable. Donc, après avoir entendu cet Ave Verum, auquel il a assisté dans la cathédrale de Vienne, ce comte von Walsegg va commander à Mozart le Requiem en lui donnant une avance relativement substantielle, que Mozart va accepter parce qu'il est un petit peu aux abois financièrement. Le 8 juillet, quelques jours après, un émissaire de Prague vient pour une représentation tout à fait politique d'un événement important et il veut commander à Mozart un opéra. Alors il faut savoir que cet opéra n'a pas été commandé directement à Mozart mais à Salieri. Oh, Salieri n'est pas du tout la méchante personne qu'on dit. Salieri sait que Mozart a des difficultés, il a une grande estime musicale pour lui et donc il va lui passer la commande de l'opéra. Cet opéra s'appelle La Clémence de Titus. Alors on est à la fin du 18e et on commence à avoir la fin de ce qu'on appelle les castrats. Les castrats, je le rappelle, étaient des hommes adultes dont on avait coupé les testicules, en fait. Ces castrats gardaient une voix d'enfant avec une puissance d'un corps d'homme. Ça faisait donc des sopranos avec un timbre très particulier. Ils étaient surtout utilisés pour la chapelle pontificale, ces castrats. Et dans l'opéra La Clémence de Titus, Mozart va faire le contraire. C'est-à-dire qu'il va utiliser des femmes qui vont chanter travesties. Elles vont avoir un rôle d'homme, mais ça va être une partie de soprano. Mozart avait déjà utilisé le procédé dans les Noces de Figaro avec le personnage de Chérubin. Ce duo entre la soprano et la clarinette est absolument extraordinaire. Il est assez long, là je vous en ai passé un tout petit extrait. À la clarinette, c'est Floriane Schouleux et la soprano est une Française, Marianne Crébassa. Ça a été enregistré en 2017 au Festival de Salzbourg, qui est la ville natale de Mozart. Cette représentation de la Clémence de Titus aura lieu à Prague le 6 septembre. Et Mozart ne chôme pas parce qu'il est obligé de rentrer le 30 septembre pour la représentation de la Flûte enchantée. Le style est un peu différent. Papa, 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 papa
La flûte enchantée, c'est une histoire d'amitié entre Emmanuel Schikaneder et Mozart. Quand on vient parler d'opéra maçonnique, parce que Dieu sait si les francs-maçons aiment s'arroger l'œuvre de Mozart, cette œuvre-là, en principe de Mozart, dans leur philosophie et dans leur façon d'être, la réalité est un petit peu différente. Schikaneder a été viré d'une loge, et on ne sait pas pourquoi, mais à l'époque, les comédiens étaient très mal vus, donc il faut savoir que les loges étaient composées principalement de militaires, officiers et non-officiers, certes, quelques bourgeois très riches, mais surtout des aristocrates, c'est eux qui faisaient la pluie et le beau temps, donc avec les valeurs de l'église chrétienne, la plupart du temps, qu'elle soit protestante ou qu'elle soit catholique. Donc Mozart, lui, alors a toujours un contact en maçonnerie, Anton Stadler, dont je reparlerai dans un instant, mais il a coupé les ponts parce qu'il y a un frère qui lui a fait un procès pour dette, et Mozart a perdu ce procès qui l'a beaucoup affecté. Donc, avec Schikaneder, les deux ont fait pas mal la fête, les répétitions ont lieu dans un faubourg de Vienne, tous les comédiens habitent pratiquement au même endroit, c'est une espèce de communauté, donc évidemment c'est très très mal vu de la gentry locale. Donc la flûte enchantée, en fait, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas du tout un hommage à la franc-maçonnerie, même si elle comporte effectivement un côté initiatique qui, ça, était intrinsèquement dans la tête de Mozart, mais ça serait plutôt un foutage de gueule. Schikaneder et Mozart se sont beaucoup amusés sur ce livret, et quand on vient dire que ça a contrarié la maçonnerie, ce n'est pas du tout à cause de l'histoire initiatique, c'est parce qu'il y a un ou deux personnages dans l'opéra qui étaient des personnages réels de Vienne. De sympathiques langues se sont accordées à leur rapporter les choses, à la création de la flûte enchantée, qui s'est fait dans un petit théâtre de Vienne en bois, alors qu'il n'était pas du tout un théâtre misérable, comme on a dit, parce que ça aussi c'est une grosse bêtise, c'était un théâtre dans lequel Schikaneder avait fait installer plein d'accessoires spécifiques pour faire de ce qu'on pourrait appeler maintenant des effets spéciaux. Schikaneder était quelqu'un qui avait le sens du public et du commerce et qui savait globalement ce qui plaisait et ce qui pouvait à l'époque enthousiasmer une foule. Donc comme Mozart a fait la flûte enchantée, il s'est passé plein de choses. Visiblement, il y a beaucoup de francs-maçons qui lui en ont voulu, mais ce n'est absolument pas à cause de la révélation, entre guillemets, qui est bien mince, d'une initiation maçonnique, qui n'est d'ailleurs pas une initiation maçonnique dans la flûte, mais une initiation tout court, mais à cause du fait d'avoir dépeint des personnages qui existaient réellement et que tout le monde pouvait reconnaître dans les rues de Vienne. La flûte enchantée, opéra maçonnique, il y a eu un livre écrit là-dessus par quelqu'un qui s'appelait Jacques Chaillet. Jacques Chaillet était professeur à la Sorbonne. Alors moi je l'ai raté parce que je suis arrivé trop tard, il était en retraite déjà depuis quelques années, dans les années 80. Et Jacques Chaillet était certes un musicologue avéré, mais il était également franc-maçon de la Grande Loge de France. Mais Jacques Chaillet était aussi secrétaire du Conservatoire National pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est lui qui, par exemple, a recensé et listé les enfants juifs de l'établissement. Toujours est-il que quand on a voulu donner son nom au grand amphithéâtre de la Sorbonne il y a quelques années, il y a une pétition, et donc le nom de Monsieur Chaillet n'a pas été donné au grand amphithéâtre de la Sorbonne en finalité. Alors son livre sur la flûte enchantée est pratiquement le seul sur le sujet en ce qui concerne la symbolique. Quand on l'analyse de près, ce que j'ai fait avec beaucoup de détails, je peux vous dire que certaines choses sont très évidentes au niveau symbolique, et d'autres sont parfaitement fantaisistes et sujettes, sinon à caution, au moins à interprétation. Entre la représentation de la Clémence de Titus et la représentation de la flûte enchantée, Mozart trouve encore moyen d'écrire ce magnifique concerto pour clarinette pour son copain Anton Stadler. Alors Anton Stadler, c'est le contraire de Mozart. Mozart mesure 1m63, Stadler fait 1m90, un bon quintal, c'est un clarinettiste exquis, et c'est le seul compagnon de loge maçonnique qui est resté aux côtés de Mozart. Ils avaient vraiment entre les deux une franche amitié. Alors Constance, l'épouse de Mozart, déteste Stadler, parce qu'à chaque fois que Stadler vient chercher Mozart, ils rentrent tous les deux bourrés comme des coins, et effectivement, ça chagrine beaucoup Constance. Mais Mozart s'attelle quand même un peu au Requiem, il tient à honorer sa commande. Malheureusement, il ne pourra pas venir au bout parce qu'il va quitter ce monde le soir du 5 décembre 1791. Constance va faire terminer le Requiem par deux de ses élèves. L'un d'eux, Franz Süssmayer, était un grand ami de la famille et un grand ami de Constance, puisqu'on a même émis l'idée qu'il serait le père de son dernier enfant. Alors, ça semble faux, puisque ce dernier enfant, Franz Xaver, avait l'oreille gauche mal ourlée, exactement comme Mozart. Donc Constance a présenté ça comme preuve, comme quoi c'était bien le frère des cinq autres. C'était l'extraordinaire Confutatis de ce Requiem. Alors curieusement, quand on interroge les personnes et qu'on leur demande de citer une œuvre de Mozart, ils citent une œuvre qu'il n'a conçue qu'à peine dans sa moitié, le Requiem.
C'est étonnant, non ?